Expliquez-nous pourquoi vous dites ne pas vouloir nous donner de choc par vos révélations. Pour qui vous prenez-vous? Je vous crois fumiste. C'est intégral. C'est comme si la personne était dans la salle et avait posé cette question-là au micro, c'est tel quel.
C'est justement pourquoi je ne veux pas parler outre mesure, parce que si je parlais outre mesure, on me croirait fumiste. Alors, ça résout le problème.
Pourriez-vous nous parler du seul grand commandement qui nous a été donné, soit de s'aimer comme Dieu nous a aimés, et non comme Satan nous a aimés?
L'homme connaîtra ce que veut dire intégralement l'amour lorsqu'il sera supramental. L'homme connaîtra ce qu'est l'amour en tant que principe lorsqu'il sera libre dans son intelligence et que ses sentiments n'affecteront plus son intelligence. Et au cours de l'évolution qui vient, l'amour de l'homme ou l'amour que connaîtra l'homme, ce sera un amour qui est à la fois intégré à l'intelligence et à la volonté. Ce ne sera pas un amour qui est basé sur des sentiments de forme qui sont liés à sa conscience astrale. Ce sera un amour qui sera logé dans le mental supérieur et qui permettra à l'homme de comprendre les lois de l'évolution. L'amour, lorsqu'il est conscientisé, permet à l'homme d'accroître en lui-même, sur le plan où il est, les forces de l'évolution. Et ce, à cause du fait qu'il y a une intégration totale entre les principes qui sont supérieurs en lui, l'intelligence, la volonté et cet amour-là. L'amour cosmique ne peut pas être vécu par l'homme dans les motifs. C'est une énergie qui est au-delà de l'astral de l'homme. C'est une énergie qui n'est pas contrôlée par l'ego de l'homme. C'est une énergie qui est canalisée dans l'homme lorsque ses centres sont ouverts et que ses plans de conscience ont été stabilisés par l'intelligence créative en lui, c'est-à-dire l'ajusteur de pensée.
On m'a toujours enseigné que l'âme était immortelle. Vous, vous dites qu'elle est mortelle. Serait-ce que moi, j'appelle l'âme ce que vous, vous appelez esprit ou énergie?
On dit que l'âme est immortelle parce que la mémoire continue à évoluer dans le temps. Le mot immortel veut dire qu'il ne meurt pas, c'est-à-dire qu'il ne cesse pas son activité. Or, effectivement, l'âme de l'homme ne cesse pas son activité, puisqu'elle est une réserve d'énergie qui s'harmonise avec d'autres énergies et qui forme dans la totalité de l'évolution ce qu'on appelle dans l'intelligence la conscience luciférique qui a été nécessaire parce que c'est justement cette conscience qui a permis de créer sur la Terre des corps denses pour que l'homme éventuellement en développe des principes au cours de l'évolution et que de ces principes éventuellement sorte l'esprit, c'est-à-dire cette énergie qui est transmutée lorsque sa conscience passe d'un stade inférieur à un stade supérieur par le biais du changement vibratoire du corps astral et du corps mental inférieur. L'immortalité de l'âme, le concept de l'immortalité de l'âme, c'est un concept qui explique une dimension de ce que l'on peut comprendre de l'âme, mais l'âme, au cours de l'évolution de l'homme futur, sera anéantie, c'est-à-dire que son énergie sera intégrée dans les principes inférieurs de l'homme pour que l'homme devienne un agent libre et que l'homme puisse accéder à un monde parallèle. La grande importance de l'âme dans l'homme, c'est qu'un jour, elle doit le servir plutôt que l'homme la serve. Et au cours de l'évolution, l'homme, l'ego, l'aspect expérientiel de l'homme, a servi à l'évolution de l'âme, à l'accumulation d'une mémoire, et au cours de l'évolution, ce sera le processus renversé où l'homme s'intégrera cette énergie pour dépasser et suspendre les lois de la matière.
Je voudrais savoir comment s'y prendre pour devenir le vrai homme. Qu'est-ce qu'on doit faire s'il n'y a pas de technique? Quoi faire? Y a-t-il une technique?
Le passage de l'homme du stage de l'homme au stage du surhomme ou de l'homme conscient, c'est un passage qui est directement proportionnel à l'évolution de chaque individu. Et les hommes qui ont les corps leur permettant cette transmutation vivront naturellement ce passage. Et il n'y a aucun effort possible à faire parce que la transmutation de l'homme est faite de par en haut, elle n'est pas faite de par en bas. L'homme peut se spiritualiser de par en bas pour se préparer à la transmutation. Mais la transmutation elle-même, la mutation de l'homme, le changement vibratoire de ses corps, sont effectués par la lumière, et ce sont les chocs de cette énergie qui créent en lui la fusion, et l'homme ne peut faire d'effort à ce niveau-là parce que tout effort chez l'homme, que ce soit un effort même positif, provient de son désir de s'améliorer, et le désir d'amélioration est consistant avec la nature inconsciente de l'homme. C'est un désir qui est louable, c'est un désir déjà qui fait partie de la sensibilité de l'homme, et c'est bon et grand que l'homme ait un tel désir. Mais lorsque le temps vient pour que l'homme passe d'un monde à un autre, d'un monde parallèle à un autre, ce désir est totalement ralenti et éventuellement il est détruit parce que l'homme ne peut plus se servir de son libre arbitre pour engendrer en lui des changements vibratoires qui sont essentiels et nécessaires pour le passage d'un plan à un autre. Ça fait partie de l'évolution de l'individu, ça fait partie de son plan de vie. Et ceux qui sont marqués pour cette évolution la feront, et ceux qui ne sont pas marqués pour cette évolution ne la feront pas et évolueront dans d'autres plans parallèles.
Est-ce que c'est nous qui désirons mourir ou quelqu'un qui décide pour nous? Et est-ce que l'on peut reconnaître quelqu'un qui est déjà décédé, qui est un être cher et qui est réincarné?
Ce n'est jamais l'homme qui décide de mourir, c'est l'âme qui le retire de l'action. Lorsque l'âme décide de retirer l'homme de la vie matérielle, ses énergies sont suspendues et il vit ce qu'on appelle la mort. Ses corps sont retirés, ils sont séparés, et c'est ce que la mort est. La mort, en fait, n'est pas aussi troublante que l'homme se l'imagine. Il l'imagine troublante parce qu'il est attaché à la matérialité par ses sens. Mais lorsque l'homme vit soit le choc de la mort par l'accident, ou qu'il vit l'expérience de la mort par la vieillesse, il la vit d'une façon très régularisée, et petit à petit, ses corps se retirent, et éventuellement, il rend le souffle, et à ce moment-là, il y a un détachement total de ses corps, et la mémoire de l'homme, sa personnalité, se retrouve sur des plans parallèles dans le monde de l'astral, et il continue là-bas son évolution.
Pourquoi l'homme a-t-il créé la guerre? À quoi sert la guerre, la destruction de lui-même?
L'homme a créé la guerre parce que l'homme n'a pas compris les lois de l'intelligence. L'homme a créé la guerre parce que l'homme est aux prises avec une conscience extrêmement astralisée. L'homme a créé la guerre parce que ses émotions et son intellect brouillent l'intelligence. L'homme a créé la guerre parce qu'il n'est pas conscient. L'homme a créé la guerre parce que il est assujetti, sans le savoir, à des forces qui cherchent la désharmonie plutôt que l'harmonie. Et lorsque l'homme sera dans l'intelligence, il ne pourra plus créer la guerre parce qu'il ne sera plus affecté émotivement ou mentalement par ces forces qui sont dans l'astral de lui-même.
Allons-nous nous réincarner tant et aussi longtemps que nous ne serons pas devenus le vrai homme?
Pas nécessairement. Il y a des êtres qui meurent et qui ne cherchent pas à revenir sur un plan matériel. Par contre, il y a des êtres qui meurent et qui recherchent à revenir sur un plan matériel. Ça dépend du choix fait après la mort. Et le choix est toujours déterminé par la nature même de l'évolution, l'expérience de l'ego et la facilité qu'a l'ego à accéder à la totalité de son expérience antérieure emmagasinée dans la mémoire de l'âme. L'âme n'a pas toujours le désir de remplir ce que l'ego demande. Il y a des égos qui sont dans le monde de la mort et qui voudraient revenir sur la terre, et ils ne peuvent pas le faire parce que l'âme ne veut pas se réintégrer, parce qu'elle préfère attendre. Alors, ces égos doivent attendre. Par contre, il y a des égos qui ont la facilité de rapport avec l'énergie de l'âme et qui ont automatiquement accès à leur plan de vie antérieur et à leur possibilité de vie future. Et à ce moment-là, en les étudiant de près, ils peuvent se constituer un corps matériel pour s'incarner.
L'âme, créature luciférienne, que fait le côté de l'âme en contemplation?
J'ai dit que l'âme, la totalité des âmes est luciférique. La totalité des âmes est luciférique. Autrement dit, le principe luciférien n'a pas été encore expliqué dans sa totalité à l'homme, parce que l'homme est encore en voie d'instruction dans le monde. Et l'homme connaîtra un jour le mystère luciférien et saura que l'âme, la totalité des âmes dans le cosmos, constitue la totalité d'un principe qu'on appelle le principe luciférique. Mais l'âme individualisée possède la capacité d'aller dans les hauts plans de la conscience luciférique qu'on appelle les mondes astro-spirituels. Que l'homme soit en contemplation dans le monde astral ou qu'il soit dans la déchéance astrale, il est toujours prisonnier de la forme et c'est ce qui constitue le grand mystère luciférien. C'est que ce que veut dire luciférien dans le langage de l'intelligence, c'est ceci: luciférien est tout ce qui est lumière en dehors du temps de la lumière. L'intelligence est dans le temps de la lumière et tout ce qui est lumière fait partie des étapes de l'évolution vers le matériel et c'est ce qu'on appelle le principe luciférien. Le principe luciférien, dans sa nature absolue, dans son intelligence absolue, est un principe essentiel dans l'évolution des mondes parce que dans les mondes, il y a des forces qu'on appelle négatives comme il y a des forces positives et ces forces sont nécessaires à l'équilibre des mondes. Les mondes ne peuvent pas exister en dehors de la polarité. Tout ce qui existe en dehors de la polarité, c'est la lumière. Alors, pour qu'il y ait polarité, pour qu'il y ait des mondes à l'extérieur de cette lumière, il doit y avoir polarité, et cette polarité sert, dans un temps, à constituer des principes inférieurs, comme son opposé, le positif de la polarité, constitue des mondes supérieurs qu'on appelle le monde spirituel, les grands mondes de l'illumination qui sont parcourus par les maîtres et les gourous.
Est-ce que la lumière est une réalité qui existe depuis toujours ou a-t-elle sa limite?
La lumière n'a aucune limite parce que la lumière est en dehors du temps. La lumière crée le temps dans son mouvement et automatiquement la lumière engendre, de par son mouvement, l'épaisseur de l'espace. Et parce qu'elle engendre l'épaisseur de l'espace, elle est totalement sans limite, c'est-à-dire qu'elle n'a pas jamais à revenir à son point de départ, puisqu'elle est totalement en dehors de l'espace. Alors, il n'y a aucune finitude dans la lumière, il n'y a aucun début. C'est pour ça que souvent on dit que Dieu n'a pas de commencement et n'a pas de fin.
Qu'y aurait-il sur la terre si l'homme n'aurait jamais existé?
C'est une question intellectuelle qui n'a aucun fondement dans l'intelligence de l'intelligence. Il n'y a pas de si dans l'intelligence. Ce qui est, ce qui est fu, et ce qui est sera reconnu, vécu. Tout est présent dans la lumière. Tout est présent dans l'univers au niveau de la lumière. Alors, les questions philosophiques qui cherchent à créer une temporanéité au phénomène de l'évolution sont des questions qui viennent du bas de l'évolution, mais qui ne sont pas réelles dans l'intelligence.
Étiez-vous vraiment inspiré tantôt, ou si c'est votre intellect qui répondait?
Si c'était mon intellect, je me croirais intelligent. Si j'étais inspiré, je me croirais poète. Je ne suis ni l'un ni l'autre.
Je voudrais savoir s'il y a un moment donné, nous allons tous comprendre ces supposés mystères, si le Saint-Esprit va venir sur le monde comme dans la Pentecôte.
L'esprit ou l'intelligence essaie d'étendre son siège sur le monde, mais c'est l'homme qui empêche la présence de l'esprit en lui-même. C'est l'homme, de par son orgueil, de par sa vanité, de par son émotivité, de par les formes astrales qui constituent son inconscience, qui empêche la présence de l'intelligence en lui-même. Ce n'est pas la faute de l'esprit, c'est la condition de l'homme. Et ce n'est pas la faute de l'homme, ça fait partie de l'évolution. L'orgueil est le plus grand obstacle à l'esprit. Un homme qui est dans l'intelligence comprend que dans l'intelligence, il n'y a pas de place pour l'intellect et il n'y a pas de place pour l'orgueil. Dans l'intelligence, il n'y a que le vide. Et dans le vide, il n'y a que le plein, c'est-à-dire le mouvement de l'intelligence à travers l'homme. L'intelligence est très simple. Les mystères sont très simples. Et le secret des mystères sont très simples. Tout est très simple. Mais pour que la simplicité du réel soit reconnue par l'homme, il faut que son intellect, son orgueil, soit déplacé. Et il ne peut le faire par lui-même parce qu'il est déjà prisonnier de cet obstacle. Et c'est pourquoi, lorsque l'homme vit le contact de la lumière avec ses corps, il subit une transmutation, vit une souffrance qui brûle ce qui est astral en lui et qui le marque comme étant un fils de la lumière. Mais lorsque l'homme est fils de la lumière, il ne peut pas être fils de l'homme.
Sur le plan de l'intelligence, le cerveau comprend deux côtés, le côté gauche pour les sciences mathématiques, etc., le côté droit pour les perceptions de la clairvoyance, médiumnité, etc. Donc, si l'homme emploie que 10% de son intelligence, est-ce à dire que le cerveau droit contribuerait à 50% de l'intelligence et le cerveau gauche 50%?
L'intelligence de l'homme n'est pas dans son cerveau. Le cerveau est simplement un support électromagnétique pour l'intelligence. L'intelligence est de la lumière et elle fait vibrer les neurones. Et ce qui empêche l'homme de se servir de tout son cerveau, ce sont ses émotions et son intellect. L'homme n'était pas brouillé dans ses émotions et son intellect qui prennent extrêmement d'énergie de sa conscience. Il n'aurait plus d'intelligence. Il faut déplacer l'énergie, mais l'homme vit au niveau de l'énergie ici ou dans les plans inférieurs de l'intellect. Alors il ne peut jamais vivre l'intelligence ou l'énergie d'une façon totale. Et c'est pourquoi son intelligence est diminuée et que son cerveau ne fonctionne pas d'une façon parfaite. Ce n'est pas dans le cerveau que se loge l'intelligence. Vous avez eu des expériences dans les journaux dernièrement en Chine où on s'est aperçu que des jeunes hommes en bas âge avaient le pouvoir de lire des textes écrits par les talons. Alors si l'homme peut lire avec les talons, il peut lire avec les fesses. Autrement dit, l'intelligence n'est pas dans le cerveau. L'homme est fait de plusieurs plans d'énergie, dont le matériel, le cerveau, n'est que l'étape finale afin de lui permettre de recevoir cette énergie dans des conditions matérielles qui constituent l'homme. Mais en dehors du cerveau, il y a de l'intelligence, il y a l'esprit. Et l'esprit, lorsqu'il est libre de certaines forces qui constitue un aspect de l'homme, telle l'émotion ou les pensées subjectives, perd son pouvoir d'action, c'est-à-dire perd son pouvoir d'interception de cette énergie qu'on appelle la lumière ou l'intelligence.
Pourquoi est-ce que l'homme doit subir des anomalies au niveau du corps? Y a-t-il un message, exemple, des infirmités, etc.?
Les infirmités font partie de ce que les gens appellent le karma de l'homme.